Alors là, on traverse une petite mini-jungle. Une mini-jungle en bas de la radio. Merci. Hop. Et on arrive devant une petite maison en bois.
Alors on va en ouvrir une à peu près au hasard. Pas celle-ci parce qu'elle fait la barbe. C'est-à-dire qu'elles sont très nombreuses à l'extérieur. On peut ouvrir ça. Alors, l'enfumoir. Merci. Donc le dessous est grillagé pour des raisons techniques d'aération. Donc il suffit d'enfumer par en dessous. Et la fumée monte à l'intérieur de la ruche. Et les abeilles, en principe, à l'odeur de fumée, sont un petit peu en stress et vont prendre du miel et en manger un petit peu, si je puis dire, puisque l'instinct fait que si la population doit subir un cataclysme, il faudra avoir mangé pour pouvoir s'en aller et survivre dehors.
Là, il se passe quoi à l'intérieur de la ruche ?
Ah ben, on va ouvrir, là. Il se passe qu'elles sont en train de remplir de miel de tilleul.
Ah, waouh ! Là, on vient d'ouvrir.
Elles sont en train de remplir de miel de tilleul tout ce grenier qu'on leur a donné vide. Et joie et bonheur pour l'apiculteur, c'est quasiment plein. Alors, regardez là, quand je mets de la fumée, ce qui se passe. Hop, elles s'agitent et elles descendent. Alors, je ne mets pas trop de fumée parce que comme c'est une hausse, c'est du miel qu'on va récolter. Et si on met trop de fumée, ensuite le miel risque de prendre le goût de fumée, ce qui serait dommage. Donc, je vais vous sortir un cadre pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Alors là, vous avez un beau cadre de miel qui est operculé en haut, là. En bas, il est en cours de perculation et elle travaille gentiment à nous rentrer du miel pour la prochaine récolte. Vous voulez voir dedans comment ça se passe ? On peut faire une exploration dans le corps. Voyez, elles sont d'une douceur exquise. Quand vous avez des populations beaucoup plus réactives, normalement réactives, moyennement réactives, vous avez déjà 5-6 abeilles qui vous arrivent dessus, là, qui viennent voir de quoi. Là, elles sont d'un calme absolument.
Elles sont très sages.
Elles sont très sages. Alors, on va poser ça là-dessus. Ça fait un petit peu lourd. Ça, c'est la grille à reine pour empêcher la reine de monter pondre dans la hausse. Je manie les choses avec grande douceur parce que la reine est quelque part. Et évidemment, si jamais je remets un cadre trop rapidement, je risque de la tuer. Et si la reine meurt, là, la population est quand même un petit peu en danger.
On ne trouve pas la reine.
On ne trouve pas la reine, mais je vous dis, on ne va pas vraiment la chercher.
On va la laisser tranquille.
Comment ? On va la laisser tranquille. Et puis, regardez, un tout petit peu de fumée au-dessus. Et elle rentre bien gentiment.
Je veux que tout change.
Alors, ce sont des variétés très douces, hein, rassurez-vous.
Par exemple, si on se fait piquer, qu'est-ce qui se passe ?
Si quelqu'un se fait piquer, on lui chauffe la piqûre d'abord. Car il faut savoir que le venin d'hyménoptère est thermolabile. Voilà, je l'ai dit, thermo-chaleur, labile, destruction. C'est-à-dire qu'en chauffant, on a un petit appareil pour ça, mais si chez vous, vous faites piquer par un hyménoptère, hein, vous chauffez avec un sèche-cheveux et le venin est détruit.
Qui va ouvrir le pot de miel ?
Je vais ouvrir le pot de miel, alors. Alors, j'ouvre le pot de miel.
C'est le miel de la radio.
D'accord.
Est-ce que vous êtes prêt à goûter, même si vous avez avoué que vous n'aimez pas
J'aime beaucoup
miel.
Le miel, en fait.
Ah.
Et en plus, on dirait du soleil, alors je vais goûter le miel. Un peu de soleil.
Vous allez nous dire à quoi ressemble le miel de la radio ?
À du miel. À assez onctueux, très sucré.
Olivier Darnay, oui, avec le doigt.
Oh, oui, bah, c'est meilleur avec le doigt. Non, vous êtes d'accord? Enfin, ça se mange avec le doigt. Alors, c'en est. Et il y en a. Alors, faut en parler? C'est effectivement doux. Il y a quelque chose qui est proche des miels de ville. Et effectivement, on comprend. On comprend qu'il y a quelque chose qui est à la fois boisé, super minéral. Mais on est déjà presque en plein milieu de l'été alors que... Ah mais en fait, si, c'est peut-être un miel de l'année dernière. C'est ça? Eh ben voilà, on a mangé l'an passé.
En deux fois. Chacun son tour.
Et donc, on a mangé la ville de l'an passé.
Ça, c'est joli.
Je sais pas.
Il faut passer à cette année, alors.
Bonne année.
Il est 23h et l'atelier intérieur s'ouvre à ce brin d'herbe au milieu du macadam, à ce qui pousse hors sol et quand même, malgré tout, à ce qui persiste, ce qui reste par tout temps, ce qui résiste dans le temps. La semaine dernière, l'atelier intérieur était à l'extérieur, en direct. On a fait le chemin du toit du 22e étage jusqu'aux abris anti-atomiques en passant par la salle de sport, les rédactions, pour arriver au studio. On cherchait ce qui ne dort pas, ce qui était vivant, en plus des voix, en plus du studio, ce qui est debout, ce qu'on ne voit pas. On était dans l'espace. Ce soir, on remonte dans le temps, 40 millions d'années et les abeilles. L'image de départ ce soir serait celle-là, une ruche à côté du studio, le rucher de la radio. Une ruche sur un toit en Seine-Saint-Denis, des ruches dans Paris. C'est Olivier Darnay qui dit, de toute façon, pourquoi chasser le naturel? Il remet dans la ville 40 millions d'années, il fait du miel béton. Et il fait du miel à cause des hommes, parce que l'organisation des abeilles peut faire avancer peut-être la nôtre. Il a créé un parti, le parti poétique à Saint-Denis. Il a fait de la place aux herbes folles, il a mis du sauvage dans l'urbain. L'image ce soir serait aussi l'homme debout, l'homme qui monte en haut des arbres. Rémi Carité est grimpeur-récolteur. Il monte à la cime pour prendre des graines et il dit « Je reviens peut-être à quelque chose du début de la vie, quelque chose d'avant la naissance, un balancement calme, irrépressible. C'est l'homme qui tente d'enlever sa couche d'urbanité. » Les abeilles communiquent par la danse, dans l'obscurité de la ruche, sur un rayon pour indiquer la direction. Ce soir, ce sera une danse dans l'obscurité, ce sera une herbe folle qui sort du macadam, ce sera montrer une autre direction que celle du béton. Ce sera revenir à quelque chose du début de la vie, ce sera la longue vie, 40 millions d'années à nos côtés, et la conscience qu'il faut pour ne pas voir le temps s'arrêter, à côté du brin d'herbe, se tenir debout et résister. Dans notre studio ce soir, une herbe qui pousse, qui résiste par tout temps et dans le temps. Et tout autour, Olivier Darnay, apiculteur dionysien, punk, poétique, artiste fondateur du Parti Poétique. Au téléphone, près d'un ruisseau, Rémi Carité, grimpeur-récolteur, l'homme qui monte aux arbres, auteur des Vertiges de la forêt. Pour rapprocher les fleurs et les mots, Stanislas Dramer, fleuriste, poète de la rue Racine à Paris. À la chanson « Nous pèserons un cœur » avec Lisa Vandera. Enfin, Amélie Bonin dessine, comme chaque lundi, la pollinisation. Elle dessine l'émission en studio. Le chemin ce soir ira de la radio jusqu'à la forêt en passant par un ruisseau. Et avant de commencer, peut-être on peut écouter le ruisseau, Rémi Carité. Est-ce que vous nous entendez depuis la forêt vosgienne?
Oui, oui, tout à fait, je vous entends très bien. Et
est-ce que vous pouvez décrire votre décor ?
Oui, le décor, mais en fait, c'est un petit bosquet qui est juste au fond de mon terrain. J'habite un petit, enfin, une petite bourgade des Vosges, et puis la nature est vraiment très proche. Donc, il y a ce bosquet qui est traversé par un petit ruisseau, et dans ce bosquet, il y a un acacia. Alors, on parlait des abeilles, et il y avait une très belle floraison exceptionnelle de l'acacia cette année. J'ai découvert de fleurs, et maintenant, toutes les fleurs sont fanées, mais elles sont répandues au sol. Ça fait comme une sorte de neige, comme ça, qui recouvre le fond du terrain. C'est magnifique.
Alors ne bougez pas, on vous retrouve près du ruisseau tout à l'heure.
Entendu.
Je ne pense pas que les abeilles soient les ennemis du jardinier. Mais effectivement, on a au jardin du Luxembourg à peu près 1 million d'abeilles. En une vingtaine, 20-25 ruches environ. Et c'est très surprenant de constater que finalement jamais aucune personne dans le public n'est piquée. Ou c'est rarissime. Les seuls qui puissent se plaindre sont éventuellement les jardiniers, en particulier les tondeurs à gazon, les tondeurs, parce que les abeilles semblent avoir en horreur le bruit ou l'odeur de l'essence des tondeuses à gazon. Si bien que très souvent, les tondeurs se font piquer. Et puis, d'autres qui n'aiment pas beaucoup les abeilles du Luxembourg, ce sont les confiseurs du coin, parce qu'il arrive que de temps en temps, quelques pillardes débarquent dans leur officine et revenant chercher toute la communauté, c'est environ une vingtaine de mille d'abeilles envahissent l'officine. Alors il est évident que ça provoque quelques mouvements divers dans le quartier. Enfin, en général, ça s'arrange bien avec les pompiers qui interviennent. Nous installons les asperceurs, les arroseurs sur les ruches et les abeilles, lorsqu'elles reviennent, ne ressortent pas. Lorsqu'il pleut, les abeilles ne ressortent pas.
Darnay vient de piquer le miel. Non, vous avez le droit, mais...
Je sais pas, j'ose pas, mais... Enfin,
vous avez vu plonger vers le petit pot de miel.
Oui, j'ai des habitudes, c'est un peu kleptomane.
Il paraît que le venin, que finalement la piqûre, ça a des vertus positives, puisqu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui sont centenaires, c'est vrai.
C'est bon pour la santé. Et le métier, effectivement, dans lequel on trouve le plus de centenaires, c'est apiculteur. Enfin, en tout cas chez les vivants. Et on se rend compte qu'en fait le venin développe nos défenses immunitaires. Donc c'est une bonne chose. Donc en fait une piqûre est un mal pour un bien. Mais après bon jusqu'à un certain seuil. En même temps il y a une chose amusante, on se rend compte que les apiculteurs au bout d'un certain temps ne sentent plus la piqûre. Et on s'est rendu compte que c'était à peu près après 800 piqûres.
Ah, vous en êtes à combien ?
Ben, ça m'est arrivé il y a quelques années. Un jour je me suis rendu compte qu'elle me piquait et ça me faisait même plus mal.
Donc presque 800 peut-être.
Oui, je sais pas.
Sans s'en rendre compte.
Quand on aime, on ne compte pas. Et en même temps, si ça fait toujours mal, disons que la douleur dure beaucoup moins longtemps. C'est toujours aussi. Ça permet de pousser des cris. C'est toujours agréable. Donc en pleine ville, d'être piqué, de savoir qu'à un moment elles ont le droit de dire non, stop, etc. Ça commence à bien faire. Donc elles ont cette capacité-là encore de. Elles font un dixième de gramme, mais de dire à un bonhomme qui fait un peu plus de 90 kilos de dire stop maintenant.
On a hésité à en mettre quelques-unes dans le studio et puis on s'est dit que.
Mais elles dorment, hein. Il fait nuit.
Elles dorment.
Donc c'est pas l'heure pour elles.
Je disais, vous avez plongé vers le petit pot de miel, mais vous dites aussi que vous avez dérapé dans le miel. Comment c'est arrivé le miel par un livre ?
Oui, le miel c'est arrivé dans la vie, et dans la vie, je ne suis pas un grand lecteur, mais je suis tombé sur un livre d'apiculture. Des fois, je dis que c'est un très mauvais livre qui posait des bonnes questions, et c'était en fait toute une série de questions que les abeilles et la ruche me posaient dans la façon qu'avait la ruche d'être une organisation sociale qui renvoyait à ma propre façon d'habiter une organisation plus ou moins sociale qui s'appelle la ville.
Elle vous posait quoi comme question ?
De savoir en gros comment on fait avec les autres, comment on fait à plusieurs, comment on va dans un sens, et comment on crée éventuellement du mouvement. Enfin, il y a quelque chose de... C'est un espace politique, la ruche. Et c'est intéressant parce que du coup, la ville aussi en est un. Et de façon plus ou moins diffuse, on n'a pas besoin d'être dans une lecture partisane pour comprendre que c'est éminemment politique, en sens où tout simplement il y a quelque chose qui relève, sinon de l'intérêt général, du bien commun. Et donc ça m'intéressait beaucoup. Et il fallait du coup que les premières questions que les abeilles me posaient aillent jusqu'à quelques réponses. Et puis du coup, je suis rentré dans une sorte de processus de la question. Voilà. Et donc j'ai noté. Et puis ensuite, il a fallu faire. Et du coup, c'est devenu une pratique, une cohabitation, une collaboration avec les abeilles autour de la question. Et donc aujourd'hui, je pose des abeilles et des questions dans l'espace public.
Et quand est-ce que vous avez posé la première abeille, la première ruche ? Comment ça se passe ? Comment on devient apiculteur ?
Ah, comment on devient apiculteur ? Le monsieur tout à l'heure expliquait que l'apiculture, selon ses règles, voilà.
Et alors c'était Jean-Christophe Rousseau de l'association apicole de Radio France.
Voilà. Donc il y a une association apicole à Radio France. Et donc ce qui est beau, c'est que il y a quasiment autant d'apiculteurs qu'il y a d'apiculture qu'il y a d'apiculteurs. Et donc j'étais par exemple au Burundi au mois de novembre, et j'ai découvert un autre type d'apiculture avec une autre synchronisation à la fois avec l'animal et à la fois avec l'écosystème. C'est-à-dire que là-bas, par exemple, avant d'être apiculteur, on est surtout cueilleur de miel. Et c'est presque plus intéressant. Mais enfin, pour ce qui me concerne, moi, on va dire que quand on a les mains et la tête dans un livre, on n'est toujours pas apiculteur. Donc, faut mettre les mains et la tête dans la ruche. Et lorsque j'ai commencé à faire ça, finalement, c'était sur le toit de ma propre maison, avec l'idée de cohabiter avec au début 80 000 abeilles et de voir ce que ça faisait de vivre avec elles, de voir comment mes enfants allaient survivre à ça, les voisins aussi et tout. Et finalement, de ruche en ruche, c'est devenu un peu compliqué cette aventure, puisqu'en fait, maintenant, on est à plus de 120 ruches. C'est plusieurs millions d'abeilles dans une ville qui a priori n'est pas butinable quand on la traverse. Enfin, Seine-Saint-Denis, au nord de Paris, pour ceux qui n'ont pas encore l'image. C'est un village de 120 000 habitants dans un tissu urbain dense. Et donc, a priori, quand on traverse la Seine-Saint-Denis, on n'a pas le sentiment de traverser une terre de miel. Sauf que voilà, un peu comme la maison de la radio, ça se mange. Ça se mange parce que c'est butinable. Elles y font du miel, et elles y font du miel avec une facilité qu'elles ne trouvent plus à la campagne. Et donc, du coup, c'est à la fois une belle nouvelle, une belle surprise, mais aussi une assez inquiétante situation. Aujourd'hui, non pas de se réjouir de faire du miel en ville, j'ai envie de dire qu'on pourrait n'en avoir rien à faire, de réussir à faire du miel en ville, puisqu'en fait, le problème, c'est surtout de ne pas pouvoir en faire à la campagne.
En ce moment, les abeilles de la ville font plus de miel que les abeilles de la campagne.
De façon hallucinante, oui, mais c'est, en fait, ce qui est hallucinant, c'est pas tant la situation des abeilles que la façon qu'on a eu de transformer les écosystèmes. Voilà. C'est un paradoxe, voilà, qui est une véritable surprise, mais qui nous montre, en fait, l'absurdité d'un monde où, en gros, les anciennes terres de miel de nos grands-parents ne le sont plus. Et c'est ça qui devient finalement inquiétant. De réussir, moi, par exemple, à faire 4 ou 5 fois plus de miel que dans la majorité des régions rurales de France, je considère que c'est pas vraiment une bonne nouvelle. J'y étais cet après-midi. Et je poussais des cris à la fois parce que je me faisais piquer, mais aussi parce que je découvrais dans les ruches des quantités de miel assez impressionnantes. Et quand on sait que, voilà, un pot d'un kilo, c'est 40 000 kilomètres de butinage, donc c'est à chaque fois, c'est un tour du monde qu'on a. Quand on pose un kilo de miel sur la table, on met un tour du monde sur la table.
Et à quel moment c'est devenu une obsession ? Vous posez la première ruche sur le toit de la maison, et à quel moment...
Ça devient grave lorsqu'on se couche le soir et qu'on ferme les yeux, on voit des abeilles. Et je ne plaisante pas. C'est-à-dire que quand on a au début la chance d'être à quelques centimètres d'une ruche qu'on l'ouvre et qu'au début on a que à la fois de l'inquiétude et de l'incompréhension, à un moment on a quand même des images qui s'impriment. C'est-à-dire que ce grouillement, ce fourmillement, j'ai envie de dire, ce grouillement, cette masse qui est unique, hein, c'est un seul individu en fait qui s'appelle la colonie. C'est pas 80 000 individus, c'est un seul individu. Et à un moment on doit se mettre en intelligence avec lui. Se mettre en intelligence avec lui, ça veut pas dire le diriger. On n'est pas un peu démurge à essayer d'être celui qui va donner la loi, dicter, orienter. On n'est pas celui qui oriente, on est celui qui doit se glisser et trouver sa place dans un mouvement. Un mouvement qui nous a dépassés, puisqu'elles étaient là bien avant nous, sur Terre. Et donc, la façon qu'on a de se mettre en mouvement, bah, c'est tout simplement d'essayer de penser abeille. Et au fur et à mesure, en fait, on peut pas être apiculteur en une année, en 3 ans, etc. Parce qu'en fait, c'est la succession d'un certain nombre de problèmes qu'il faut avoir rencontrés pour être apiculteur. Et c'est réussir à transformer les problèmes non pas en solutions, mais en découvertes. Et donc après avoir eu des nuits où, enfin, en se couchant, on voit des abeilles, ensuite, on se retrouve un peu comme des pêcheurs à la truite, à penser poisson. Sauf que nous, d'un seul coup, on pense abeille.
Et ça veut dire quoi, penser abeille, par exemple ?
Eh ben, ça veut dire qu'en fait, on comprend ce que c'est que le miel dans la vie. C'est-à-dire que le miel, pour une abeille, c'est rien d'autre que la possibilité de passer d'une bonne saison à une autre bonne saison. C'est comment on passe l'hiver, comment on fait en sorte que lorsqu'il fera moins 5 degrés dehors, à l'intérieur de la ruche, il fera toujours 25 ou 30 degrés. Et la solution, c'est le miel. Voilà. Le miel, c'est rien d'autre qu'une énergie, un gasoil, quelque chose qu'elles vont transformer en métabolisme musculaire.
Vous disiez, c'est aussi peut-être une peur du lendemain, des mauvais jours ?
Ah oui, elles font du miel parce qu'elles ont peur. Et c'est un peu comme nous, enfin pas tous hein, autour de la table, mais on essaye de faire de l'argent un peu parce qu'on a peur. C'est-à-dire qu'on a c'est-à-dire que les abeilles accumulent de façon indécente. C'est-à-dire qu'une ruche pourrait s'arrêter de travailler après avoir fait 25 kilos de miel. Eh ben non, elle ira jusqu'au bout. Elle ira jusqu'au bout de la ressource. Et tant qu'il y en a, on y va. Et donc tant qu'il y en a, on y va. Donc on récolte, on amasse. Et à un moment, du coup, la ruche, c'est l'accumulation. Et l'accumulation, ça nous amène à un autre scénario qui s'appelle l'obligation de partir. Qui s'appelle l'essaimage. À un moment, accumuler, c'est mourir. Si la ruche continue de stocker du miel comme ça dans la ruche, elle se remplit de miel. Et bien finalement, à un moment, il n'y a plus d'espace pour que la reine puisse pondre des œufs. Donc assurer la succession du peuple. Et donc, ne plus pouvoir assurer la succession de peuple, c'est faire en sorte qu'une abeille qui a 40 millions d'années, mais qui ne vit que 45 jours, parce qu'une abeille, ça ne vit que 45 jours, ne puisse pas assurer ce mouvement perpétuel de vie. Puisqu'en gros, il y a 2000 naissances. Ça vous intéresse ce que je dis ? Il y a 2000 naissances d'abeilles par jour, et donc il y a à peu près 2000 abeilles qui meurent chaque jour. Et donc, dans ce mouvement perpétuel entre la mort et la vie, à un moment, l'apiculteur, il va être celui qui accompagne, qui prend une part de miel, mais qui est celui qui n'ont pas l'accoucheur ou le gardien. D'ailleurs, il y a un terme intéressant, plus intéressant qu'apiculteur en anglais, c'est beekeeper, le gardien des abeilles. Et donc c'est assez joli parce que la façon qu'on a du coup apiculteur d'accompagner l'abeille, c'est de trouver sa place dans un mouvement où elles n'ont pas besoin d'apiculteur.
Stanislas Drabert, est-ce que vous êtes prêt maintenant à goûter le miel d'Olivier Darnay?
Ah bah oui, je vais le goûter. Surtout qu'il
c'est votre soirée miel.
Avec mon doigt, alors c'est meilleur.
Avec le doigt, c'est le miel béton.
Ça, c'est le miel béton, alors.
Tout à l'heure, vous le sentiez aussi pour sentir les fleurs.
Ah oui, c'était beau, d'ailleurs.
Miel béton, et on se casse pas les dents dessus. Ah oui, il est beaucoup plus, comment dirais-je, granuleux.
Ah bah, c'est la banlieue. Hein.
C'est la banlieue, c'est granuleux, c'est moins lisse.
Ah bah, ouais.
Voilà.
Qu'est-ce que je disais ?
Des reliefs, beaucoup de reliefs dans le miel.
Et qu'est-ce que vous avez senti en le sentant, avant de le goûter, Stanislas Drabert ?
C'est certain qu'on doit sentir un certain nombre de choses, mais arriver à les déterminer comme ça, une par une, pour moi j'en suis totalement incapable, mais la globalité est assez délicieuse et sirupeuse. Et vous dire s'il y en a un que je préfère à l'autre, j'y arriverai pas, les deux me sont agréables. On sent un peu la cire dans celui-là, dans le miel béton, un peu le cuir, un peu la cire, et il doit se déguster tout seul, il n'y a pas besoin de pain, je pense.
Ah oui.
Voilà, l'autre est plus à accompagner, et celui-ci peut se manger tout seul. Moi, je le ressens comme ça. Est-ce que vous voulez goûter aussi ?
Avec plaisir. Vous êtes venu, Stanislas Drabert, avec quelques livres pour faire écho aux fleurs, à la nature.
Oui, je suis venu avec quelques livres, parce que moi, ce qui m'intéressait par rapport aux fleurs, au-delà du fait que les roses m'ont piqué aussi, et peut-être plus de 800 fois, et qu'elles continuent à me faire mal, c'est la réaction que peut procurer le mot et la réaction que peut procurer la fleur. Et les mots qui sont associés aux fleurs, et les fleurs qu'on associe aux mots. C'est-à-dire, souvent, on joint un bouquet de fleurs ou un cadeau, un petit mot qui va avec, où il est écrit, où il est dit, mais en tout cas, il doit être partagé. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était d'essayer de comprendre la bonne fleur par le bon mot, parce qu'il y a beaucoup de symboliques dans les fleurs, de par les couleurs, leur origine, leur espèce. Il y a aussi des symboliques à respecter. Donc quand les gens vous disent qu'ils cherchent un bouquet de fleurs pour tel ou tel événement, eh ben, il faut essayer avec un petit peu de psychologie d'essayer de comprendre et de voir ce qui pourrait coller au mieux, ou à la fête, ou malheureusement au cas plus triste. Donc,
par rapport à... Vous en avez apporté un premier, là, alors, que vous vouliez lire.
Alors, j'ai pas mal de livres, mais surtout le premier des premiers que je vous ai apporté, c'est celui qui m'a fait être fleuriste et vendre des livres, ce sont Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Je trouvais ça évident qu'un fleuriste puisse délivrer Les Fleurs du Mal. Et d'autant plus que j'ai une grande passion pour Baudelaire et que, pas par esprit de revanche, parce que j'en suis pas là, mais par amusement, je sais que Baudelaire détestait les jardins et la campagne. Et ça m'amusait de mettre Baudelaire en association avec les fleurs dans ce cas-là. Et surtout que il appelle les fleurs du mal, en fait, la difficulté et tous les mots que l'on peut rencontrer. Et ben tous ces mots ont une certaine beauté, et c'est la beauté qu'il a essayé de faire ressortir dans son livre. Et c'est un peu, une fois de plus, sans me répéter trop, ce qu'on peut retrouver sur une rose qui peut être piquante, qui peut être un peu désagréable à toucher. En fait, c'est bon, peut-être la reine des fleurs. Et c'est d'essayer de trouver la beauté des choses en toute chose et l'unicité de la fleur que l'on va ensuite partager. Et après, je me suis étendu sur pas mal d'autres auteurs, en particulier sur Rilke, qui est cité plusieurs fois chez moi, qui est « La racine a beau tout ignorer du fruit, il n'empêche qu'elle les nourrit ». Donc là aussi, c'est la symbolique de la fleur, la symbolique des choses qu'on ne peut pas découvrir dans le premier sens. Mais quand on cherche un petit peu, on a beaucoup d'explications.
Et vous vouliez lire la préface des Fleurs du Mal ?
Alors, je peux vous lire la préface des Fleurs du Mal, et en tout cas, cette préface qui a été écrite par Baudelaire lui-même. Alors, je vous la lis. « Ce n'est pas pour mes femmes, mes filles ou mes sœurs que ce livre a été écrit, non plus que pour les femmes, les filles ou les sœurs de mon voisin. Je laisse cette fonction à ceux qui ont intérêt à confondre les bonnes actions avec le beau langage. » Je sais que l'amant passionné du beau style s'expose à la haine des multitudes, mais aucun respect humain, aucune fausse pudeur, aucune coalition, aucun suffrage universel ne me contraindront à parler le patois incomparable de ce siècle, ni à confondre l'encre avec la vertu. Les poètes illustres s'étaient partagés depuis longtemps les provinces les plus fleuries du domaine poétique. Il m'a paru plaisant et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile d'extraire la beauté du mal. Ce livre, essentiellement inutile et absolument innocent, n'a pas été fait dans un autre but que de me divertir et d'exercer mon goût passionné de l'obstacle. Quelques-uns m'ont dit que ces poésies pouvaient faire du mal. Je ne m'en suis pas réjoui. D'autres, de bonnes âmes, qu'elles pouvaient faire du bien, et cela ne m'a pas affligé. La crainte des uns et l'espérance des autres m'ont également étonné et m'ont servi qu'à me prouver une fois de plus que ce siècle avait désappris toutes les notions classiques relatives à la littérature. Malgré les secours que quelques cuistres célèbres m'ont apportés à la sottise naturelle de l'homme, je n'aurais jamais cru que notre patrie puisse marcher avec une telle vélocité dans la voie du progrès. Ce monde a acquis une épaisseur de vulgarité qui donne au mépris de l'homme spirituel la violence d'une passion. Mais il est des carapaces heureuses que le poison lui-même n'entamera pas. J'avais primitivement l'intention de répondre à de nombreuses critiques et en même temps d'expliquer quelques questions très simples, totalement obscurcies par la lumière moderne. Qu'est-ce que la poésie ? Quel est son but ? De la distinction du bien d'avec le beau, de la beauté dans le mal ? Que le rythme et la rime répondent dans l'homme aux immortels besoins de monotonie, de symétrie et de surprise, de l'adaptation du style au sujet, de la vanité et du danger de l'inspiration, etc., etc. Mais j'ai eu l'imprudence de lire ce matin quelques feuilles publiques, soudain, une indolence du poids de 20 atmosphères. S'est abattu sur moi et je me suis arrêté devant l'épouvantable inutilité d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ceux qui savent me devinent, et pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas comprendre, j'amoncellerai sans fruit les explications. » Donc ça, c'était l'entrée en matière des Fleurs du Mal, après les ébauches de procès que Baudelaire venait de subir.
Olivier Darnay, vous prenez des notes ?
Ben oui.
Comme quoi, par exemple ?
Pourtant, à cette heure-là, d'habitude, je prends pas de notes. Mais je me suis rendu compte que je prenais des notes et que je ne les relisais jamais. Et malgré tout, je continue à en prendre.
Vous les retenez peut-être.
Comment ?
Vous les retenez peut-être.
Ben, je sais pas.
Et là, vous pouvez lire les deux,
c'était
trois dernières.
C'était toujours les mêmes notes, ça serait joli. je prenais des notes en pensant au miel comme le sang des fleurs. Ça vous laisse un... Ça vous fait un blanc, tout ça. Et du coup, je pensais à la pollinisation. Et de l'obligation, du coup, qu'ont les abeilles de trouver les fleurs et qu'ont les fleurs de trouver les abeilles. Et de la façon, du coup... de se retrouver face à un pot de miel au croisement du règne animal et du règne végétal. Et de la façon du coup qu'a l'homme d'être à ce rendez-vous, là. Hein. Puisque le miel étant rien d'autre qu'une sorte de concentration très forte d'une substance évidemment éminemment végétale, mais transformée par l'animal et récoltée par l'homme. Et donc c'est lui qui récupère à un moment les fruits de cette symbiose. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, le miel c'est bien, mais la vie c'est mieux. C'est-à-dire que même si je fais pas du miel pour manger du miel, parce que je mange pas beaucoup de miel. Si je mange 2 kilos de miel par an, c'est un maximum. Donc on peut pas dire que c'est pas le l'appétit ou l'avidité ou le butin qui m'attire. Et progressivement, je me suis rendu compte que l'apiculteur était rien d'autre que quelqu'un qui cherchait à transformer du temps en miel, et puis ensuite du miel en argent, en vendant son miel. Et puis ensuite, avec cet argent, il, voilà, il nourrit sa famille, et puis c'est la fin de l'histoire, d'une certaine façon. Et puis il continue l'année suivante en espérant que l'année sera bonne, et il refera à nouveau une transformation de temps en miel, et de miel en argent, etc. Et il y a quelque chose en fait d'encore peut-être plus intéressant que ça, c'est de se rendre compte qu'on peut transformer du temps d'apiculteur en vie. C'est-à-dire que, de la même façon que l'élevage des abeilles croise d'une certaine façon aussi un vocabulaire de culture, on cultive les abeilles, hein. Il y a un vocabulaire aussi qui est propre aux plantes, adapté, on bouture finalement une ruche, on taille une ruche, quand on récolte le miel, jadis on utilisait un vocabulaire qui était propre au jardinage et à la culture. Et du coup, je me rends compte que la vie est plus importante que le miel, parce que d'une certaine façon, ce que j'appelle moi aujourd'hui le service de pollinisation, le service public de pollinisation, c'est la façon du coup d'être nous humains, non pas avec l'idée de récolter un produit qui sera ensuite vendu, etc., mais nous humains peut-être dans la façon de multiplier à la fois les petits pains et la vie, sur la façon qu'on a à un moment de bouturer une ruche et d'en fabriquer plusieurs. Voilà. De fabriquer avec une ruche une multitude de ruches. Aujourd'hui, je passe plus de temps à faire des... à élever des rennes. Alors, c'est vrai, en plus, je suis à Saint-Denis, ville des rois et reines de France, ça a plus de sens de le faire là-bas qu'ailleurs, mais... Donc, j'élève des rennes, je produis des essaims, et je prends plus de plaisir à ça qu'à faire du miel.
Et le rapport au temps est très fort avec le rapport au miel, parce qu'au tout début de l'émission, en goûtant le miel de la radio, vous avez dit, on a goûté l'an passé, l'année passée.
Ah oui, parce que l'an passé a un goût qu'on n'aura pas l'année prochaine. Et je le dis d'autant plus volontiers que, par exemple, le pot de miel que j'ai posé sur la table, que Stanislas a goûté, c'est un temps d'une géographie. Donc c'est à la fois un temps et un espace, c'est-à-dire que c'est un temps donné de quelque chose qui ne sera pas forcément là l'année prochaine. Ce goût-là, je le dis volontiers parce que je suis retombé sur ce pot de miel la semaine dernière, et ce goût-là, en fait, je l'ai pas retrouvé pendant 4 ans de suite. C'est-à-dire que cette saison-là, il y a eu en fait le résultat d'un miracle, parce que le miel, c'est rien d'autre que le miracle, d'un rendez-vous à ne pas manquer entre, bien sûr, les abeilles et les fleurs, mais c'est en fait plus compliqué que ça. C'est-à-dire que pour faire du miel, il faut des abeilles, des fleurs, mais il faut aussi de la température, un niveau de température au-delà de, on va dire, 18-20 degrés, au-delà de 18 degrés, quoi. Et puis aussi une hygrométrie. Si à un moment on est dans une sécheresse, ce qui est le cas aujourd'hui, cette année, par exemple, eh ben, évidemment, à un moment, le rendez-vous est raté. Voilà. Et le rendez-vous est raté, ça veut dire pas de miel. Et donc, oui, on peut manger une année, on peut manger une géographie. Moi, par exemple, sur Saint-Denis, je fais juste l'expérience de, j'appelle ça des, une relation chronogustative, c'est-à-dire qu'à un moment on mange la ville et on se rend compte qu'en fait la ville ça n'a pas qu'un seul goût. La ville ça change de goût avec le temps. Et donc moi j'ai toujours un doigt dans la ruche, donc en fait je goûte régulièrement et je me rends compte qu'à un moment à 3 jours d'intervalle, il y a une sorte de révolution gustative, chronogustative, la ville a changé de goût en 3 jours parce qu'une floraison dominante s'est terminée et une autre a enchaîné. Voilà.
Sur un pan de Paris, mais si je dis le nom du pan, il y aura quelqu'un qui ira arracher la feuille, la plante, et je ne veux pas, parce que moi, c'est une espèce de totem. Il y a une plante, une herbe, que je n'ai pas pu identifier, mais qui est d'une robustesse extraordinaire, et qui pousse entre deux pierres. Il y a une raie entre les pierres, qui se remplit de poussière cosmique, ou quoi, mais enfin, qui nourrit la plante. Et les ponts de Paris sont nettoyés presque tous les ans, par le service des ponts et chaussées, qui est impitoyable. Il trouverait un palmier sur le pont Alexandre, il l'arracherait, par exemple. Eh bien, cette plante, combien de fois j'ai dit à une amie, ça y est, notre plante, elle est fichue. Elle n'y est plus. Eh bien, 15 jours après, ça, elle ressortait. Elle a toujours ressuscité. Toujours.
Elle aussi a choisi le parti poétique, le minéral et les mots. Lisa Vandara réalise avec son disque La pesée d'un cœur. Fait de 3 disques, Vote, c'est la pesée d'un cœur, c'est une cérémonie égyptienne. Le cœur défunt sera pesé 3 fois devant des juges. Il y a 3 chapitres. Chapitre 1, le cœur est trop lourd, trop froid, trop contrôlé. Chapitre 2, le cœur est libre, liquide, il abandonne le désir de survivre. Chapitre 3, le cœur est réaliste, il accueille aussi la présence de l'autre. C'est en direct ce soir, la pesée de vos cœurs par Lisa Vandara.
Je suis Lisa Vandara en direct dans l'atelier d'intérieur d'Aurélie Charron sur France Culture.
<t'en>
Du ruisseau, Rémi-Carité.
Oui, je suis là.
Pas trop froid ?
Les arbres, non, c'est parfait, la nuit est douce.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, quand on est grimpeur, récolteur, quelle gymnastique particulière on fait pour grimper aux arbres ? Qu'est-ce qu'il faut savoir ?
C'est simplement la gymnastique, ça consiste simplement à utiliser tout son corps et toute son intelligence peut-être du corps, mais les bras autant que les jambes, hein, c'est vraiment ce qui est intéressant dans les arbres, c'est que c'est un univers en trois dimensions, il y a enfin, il faut être attentif à tous ces gestes, bien sûr, pour ne pas tomber. Il faut être attentif à l'arbre, parce que bon, voilà, certaines branches quelquefois sont moins solides que d'autres, et aussi des essences qui sont plus cassantes. Il y en a dans lesquelles on y va vraiment tranquillement, mais d'autres, bon voilà, il faut être toujours un peu sur ses gardes d'une certaine manière. Et puis on joue avec la souplesse. Il y a toujours un mouvement dans l'arbre. Dès qu'on est accroché à la cime, il y a notre poids déjà donne un petit peu de ballant, et puis il peut y avoir de la brise, il peut y avoir du vent, donc on est toujours dans, c'est presque une danse, hein, c'est toujours un mouvement comme ça qui nous.
Et quand on se retrouve, quand on se retrouve à 35 ou 40 mètres au-dessus du sol et qu'on atteint la lumière, quelle sensation on a, la tête levée?
On est heureux d'être arrivé à bon port, et puis mais je crois aussi que la sensation, c'est la découverte en fait d'un nouveau point de vue sur le paysage, parce que quand on est on marche d'abord en forêt, on lève la tête pour voir un peu ce qui se passe au-dessus et dans quel arbre on pourrait grimper, quel arbre on pourrait escalader, et c'est une surprise aussi qu'on ressent. Et puis on redécouvre la lumière, c'est le passage, il y a toutes les gradations, on est vraiment dans l'obscurité du sous-bois, et petit à petit on rejoint la lumière jusqu'à donc arriver au-dessus, sous le ciel, dans le soleil.
On parlait tout à l'heure du lien entre la nature, les fleurs et les mots. Vous avez mis en mots l'expérience de la forêt dans un livre qui s'appelle « Les vertiges de la forêt, petite déclaration d'amour aux mousses, aux fougères et aux arbres ». Et à l'intérieur duquel vous écrivez par exemple « On se sent animal parce qu'on est confronté au vivant, c'est comme une méditation, on est pleinement dans le moment présent, en compagnie d'un organisme vivant ». C'est quoi cette confrontation avec l'arbre? Vous dites aussi je fais grandir la part de l'arbre en moi.
Cette dimension que j'évoque, c'est ça rejoint toute la, comment dire, la dimension métaphorique de l'arbre. Mais il y a aussi en premier la dimension physique. Peut-être aussi quelque chose qui nous relie à nos origines très lointaines, que probablement et certainement on descend de l'arbre. Donc c'est toutes ces dimensions-là qu'on retrouve. Et puis je crois qu'il y a aussi dans ces journées que je passe en forêt une rupture totale avec la société, avec le monde et avec l'agitation du monde. Donc on est prêt à accueillir quelque chose d'autre quand on est en forêt toute la journée et quand on est dans un arbre toute la journée. Et quelque chose d'autre qui n'apparaît pas facilement si on est dans des activités quotidiennes ou dans un environnement urbain, etc. Là, on est vraiment aux prises avec des choses essentielles, hein, qui sont d'une part sa capacité à grimper, enfin donc sa force, sa forme, ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, c'est que c'est un travail. Donc on se nourrit en faisant ce travail. Alors on butine d'une certaine manière, hein, pour faire écho aux paroles des apiculteurs. On récolte ce que les abeilles ont pollinisé. On récolte les fruits de l'arbre. Donc voilà, c'est un peu toutes ces dimensions qu'on retrouve en forêt.
Vous êtes entouré par quels arbres, là, par exemple, en ce moment?
Des feuillus, et il y en a deux, je sens, qui sont, mellifères, je crois, on dit, hein, qui sont intéressants pour les abeilles. C'est donc la castia dont je parlais tout à l'heure, et un tilleul aussi. Et sinon, il y a les arbres qui poussent au bord de l'eau, donc l'aulne, et puis des érables, et un frêne.
Et elle a quoi, cette...
Des... Oui.
Elle a quoi comme particularité, cette forêt vosgienne? Puisque vous y êtes né, vous avez quel lien avec elle?
Je crois que la forêt vosgienne, elle est riche parce qu'elle, c'est une forêt de montagne. Donc il y a des endroits, si vous voulez, qui sont c'est une forêt qui est vraiment exploitée, hein. C'est-à-dire bon, elle est coupée, on fait du bois, il y a une sylviculture très importante, donc une activité économique très importante. Mais il y a aussi des endroits complètement presque inaccessibles. Et là, dans ces endroits, on découvre des arbres qui sont livrés à eux-mêmes, donc quelque chose de beaucoup plus sauvage. Et puis il y a une très forte présence de l'eau dans cette forêt. Il y a des ruisseaux partout, des cascades, il y a des mousses, c'est une forêt humide aussi, donc des rochers, des mousses. Comme ça, ça compose un paysage que je trouve vraiment très, très particulier et vraiment unique à mon sens. Parce que une grande diversité avec donc toutes les plantes qui peuvent pousser sous les arbres aussi, donc mousses, fougères, myrtilles, ou bien des petits arbres comme ça, comme le houx.
Stanislas Drabert, est-ce que vous allez vous perdre en forêt parfois ?
Ça m'arrive. Dans la forêt vosgienne, j'y suis allé un petit peu, et c'est vrai qu'elle est assez grande. Moi, c'est plus les jardins quand même, mais ça m'arrive d'aller dans les forêts vosgiennes. Exactement. Et d'imaginer les racines quand on voit les arbres, ça m'intéresse bien aussi.
Vous avez aussi apporté Maeterlinck, Stanislas Drabert.
Oui, j'ai apporté Maeterlinck parce que, comme on a un ami apiculteur, il a dû, je pense, découvrir les termites, et puis les abeilles peut-être un peu aussi.
Juste avant les humains.
Et moi, j'ai bien aimé l'intelligence des fleurs. Alors, je peux vous lire un petit peu sur l'intelligence des fleurs. Et on va s'y retrouver un petit peu, puisque l'organe essentiel, l'organe nourricier de la plante, sa racine, l'attache indissociablement au sol. C'est la loi qui la condamne à l'immobilité depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et l'énergie de son idée fixe, qui monte des ténèbres de ses racines pour s'organiser et s'épanouir dans la lumière de la fleur, est un spectacle incomparable. Elle se tend tout entière dans un même dessin, s'échappe par le haut à la fatalité du bas. Je trouvais ça assez intéressant, aussi bien au travers des mots que pour les fleurs et que pour nous tous. Et une fois que le haut est sorti, les abeilles peuvent venir.
Ça vous va bien, la rue Racine, Stanislas Drabert ?
Oui, alors c'est pas la même racine, mais ça s'appelle la rue Racine quand même, ouais. Il y a pas mal de choses qui sont tombées comme ça un petit peu par hasard. La rue Racine, pour un fleuriste, ça tombait bien. La découverte de certaines de ces phrases aussi qui étaient en rapport avec la racine, celle que je vous disais tout à l'heure de Rilke, hein. La racine a beau tout ignorer du fruit, il n'empêche qu'elle les nourrit. Voilà, tous ces éléments ont fait que, par une suite de circonstances, je me suis retrouvé rue Racine à vendre des fleurs au milieu de Baudelaire. C'était pas désagréable.
Il y a un dessin sur la vitrine, il y a deux yeux et une bouche.
Alors en fait, c'est deux yeux, une bouche. C'est un végétal avec deux yeux et une bouche. C'est pour rappeler un petit peu le contexte global, c'est-à-dire les différents sens pour la lecture des textes, les végétaux bien sûr, mais aussi quelques gravures qu'on peut retrouver chez moi, des gravures de Redouté ou de Pierre Bulliard, qu'on fait énormément pour toutes ces plantes qu'on connaît de mieux en mieux aujourd'hui.
Est-ce que vous lisez encore des traités d'apiculture, Olivier Darnay ?
Non. Non, parce que ce qui m'excite plus aujourd'hui, c'est par exemple c'est avec l'équipe du Parti Poétique d'imaginer un projet comme celui de la Banque du Miel, par exemple, qui du coup est un projet artistique qui pose en fait les abeilles et les humains dans une situation où certains essayent de faire de l'argent, l'autre essaye d'assurer juste leur survie et des fois aucun n'y arrive. Donc du coup, on part du principe où il vaut peut-être mieux essayer de transformer de la richesse et du collectif plutôt que de l'argent et de la solitude. C'est-à-dire que c'est un peu ça, la Banque du Miel. C'est-à-dire que L'idée d'une situation où en fait l'abeille se retrouve au croisement d'une crise économique et écologique fait qu'à un moment on aimerait matérialiser les choses, les rendre visibles. D'une certaine façon, les abeilles rendent visible la ville puisqu'elles nous la donnent à manger. Donc il n'y a rien de plus mieux que de pouvoir manger quelque chose qui nous paraissait incompréhensible ou indigeste. Et là, du coup, on est à peu près dans la même chose. Donc, en ce moment, par exemple, on a installé la Banque du Miel à Oslo avec l'Institut français là-bas, en Norvège. Et c'est très très beau la façon, donc, dans un pays qui est quand même avec une relation à la nature complètement différente que la nôtre, nous, Français, de voir d'une certaine façon la dynamique qui se met en place sur la transformation de l'argent mort en abeilles vivantes. C'est ce qu'on... Du coup, on a créé les conditions d'un outil financier qui s'appelle le compte épargne abeille. C'est un compte pour épargner les abeilles. Voilà. Et donc les Norvégiens, ils comprennent ça. Les Français aussi, d'ailleurs les Suisses aussi. Donc il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place et où, du coup, à la faveur de l'argent, on préférerait la vie.
Et une des premières actions artistiques aussi liées aux abeilles, c'était la lune de miel. C'est quoi la lune de miel ?
La lune de miel, c'était une fausse bonne idée qui s'est réalisée en vrai et qui a été une sorte de succès. Mais en même temps, pour moi, c'était un déclencheur sur l'idée d'arrêter de travailler de cette façon-là. À l'époque, en 2007, je propose à l'équipe, j'étais artiste associé au Parc de la Villette et je proposais aux équipes du Parc de la Villette, donc à Paris, dans le quartier nord, le quartier de la Villette, voilà, d'organiser des lunes de miel sur les trottoirs de Paris. Alors on me regarde avec des grands yeux quand je dis ça, et, ah bon, c'est possible? Ben oui. Et donc l'idée c'était de dessiner, de construire un hôtel particulier où on pourrait venir dormir au milieu de 100 000 abeilles. Et donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dort au milieu de 100 000 abeilles? En couple évidemment, ça se fait à deux ce genre de choses. Et bien, c'était l'expérience qu'on proposait aux gens. Et alors, donc on louait un hôtel, une chambre, pour les gens payaient pour ça en plus, c'était terrible. Et ça a très bien fonctionné. Et à l'issue de ça, je me suis dit, en fait, on peut pas continuer à faire en sorte que les urbains se réjouissent de vivre une petite expérience formidable, sentimentale et mémorable, à un moment où les abeilles meurent. Voilà. Et les abeilles meurent, elles sont malades de l'homme, elles en meurent. Et en fait, il y a évidemment, en dehors de cette petite nuit magique qu'on a passée à se faire des bisous au milieu du miel, le drame de cette disparition, et donc de voir en gros comment toutes les questions qui apparaissent dans leur disparition, les abeilles, et sont suffisamment graves et d'une certaine façon politiques, pour qu'on puisse à un moment imaginer un projet artistique qui articule à la fois le sensible, le politique, pourquoi pas le poétique aussi, mais et l'environnement. Et donc on mette en cause et qu'on mette en question et en mouvement ces préoccupations entre art, environnement et quotidien.
Oui, il y a les bruits aussi. Tiens, une fois j'étais à Notre-Dame et c'était pareil, il devait être 5h du matin, quelque chose comme ça. Donc le soleil allait se lever dans quelques heures. Et il y avait des oiseaux qui étaient en train de se parler de trois ponts en aval à trois ponts en amont. Et c'était vraiment, il y avait un concert, c'était le matin. Oh là là, j'étais avec un copain, c'était fantastique. C'est un spectacle qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir à Paris, quoi. D'un seul coup, on se rend compte que, ah ouais, il y a de la nature. Il faut faire attention.
On trouve quoi comme fleurs en ce moment, Stanislas Drabert ?
En ce moment, dans les fleurs de pleine saison, on est un petit peu sur la fin de la pivoine, mais on en parle quand même parce qu'elle est magnifique. Les pois de senteur, parce qu'ils sont délicieux. Et les roses de jardin, avec 1000 roses différentes et 1000 parfums différents, mais 1000 fois des roses. Voilà ce qu'il y a en particulier.
Alors, 1000 fois des roses avant minuit, et puis La pesée du cœur par Lisa Vandera en direct du studio 108.
Thank you. country of dirt and wood, magnolia tree.
L'atelier intérieur se finit sur les notes en direct de Lisa Vandera. Je dis merci à Alice Ramon à la préparation, Delphine Lemaire à la réalisation et ce soir à la technique Emmanuel Morse-Duncan et Jean-Guilain Meige. Nous avons repollinisé votre nuit, nous avons goûté le miel. Le miel, c'est du temps. L'an passé n'aura pas le même goût que l'année à venir. Mais l'herbe est au milieu du macadam, on ne la poussera pas. Et puis on peut finir par la phrase d'Olivier Darnay, le miel c'est bien, mais la vie c'est mieux. Vous écoutez France Culture, il est minuit et c'est l'heure des nuits